Habituellement, quand on regarde les plans d'un bâtiment moderne, tout est hyper clinique. Les lignes sont droites, les côtes sont précises au millimètre près. On sait exactement où se trouve chaque poutre. Mais quand on se penche sur les textes fondateurs de l'humanité...
Les plans d'architectes deviennent beaucoup plus complexes, ouais. Presque organiques, en fait.
C'est exactement ça. Les lignes droites, elles se transforment en arbres généalogiques et les fondations, ben, elles s'enfoncent dans des millénaires d'histoire.
On quitte vraiment la géométrie pure pour entrer dans un paysage où l'histoire, la littérature et la théologie s'entremêlent. C'est le propre des textes antiques. On ne regarde pas juste un bâtiment, on regarde une civilisation entière en train de se construire.
Et c'est ce qui rend l'exploration de ces textes tellement captivante. Aujourd'hui, notre mission, c'est de plonger au cœur d'un de ces textes fondamentaux. On va s'appuyer sur les notes de la toute première session du cours du Dr Kenneth Matthews, un cours qui date de 2024, où il propose une introduction magistrale au livre de la Genèse.
Ouais, une introduction vraiment détaillée.
Mais bon, posons les règles du jeu tout de suite. Pour ceux qui nous écoutent, l'objectif ici, c'est absolument pas de faire un sermon.
Non, pas du tout.
Que l'on lise ce texte avec une lentille chrétienne ou qu'on soit juste un passionné d'histoire du Proche-Orient ancien, le but, c'est de démonter le moteur, en fait. Comprendre la mécanique, comment l'auteur a structuré son récit, ce que ces mots signifiaient pour les tout premiers lecteurs et surtout...
Surtout comment le texte déploie cette idée assez incroyable d'un Dieu personnel qui cherche à établir une relation avec une humanité qui est pourtant profondément fracturée.
Voilà, parce que comprendre l'architecture de ce récit, c'est comprendre comment une immense partie de l'humanité a conceptualisé ses origines, mais aussi, et ça on va le voir, ses espérances futures.
Tout à fait. Et pour saisir l'objectif profond d'une œuvre comme ça, il faut commencer par son point de départ le plus basique, son titre.
Bon, décortiquons tout ça. Le titre, il a une double identité. Nous, on a l'habitude de l'appeler Genèse. Ça sonne très scientifique, très axé sur la biologie ou, je sais pas, la création physique pure.
Mais c'est pas le titre original hébreu, en fait. Le mot Genèse qu'on utilise en français, il nous vient du grec. C'est le titre donné dans la Septante, la célèbre traduction grecque de l'Ancien Testament, et ça signifie littéralement « origine ».
Donc l'accent est vraiment mis sur la provenance des choses.
C'est ça. Mais le texte hébreu original, il a une toute autre approche. Le titre original, c'est « Bereshit ». Et « Bereshit », c'est rien d'autre que le tout premier mot de la première phrase du livre.
Ce qui se traduit par « au commencement ».
Exactement, « au commencement ».
C'est super direct. Ça pose une ligne temporelle. Et d'ailleurs, les notes du Dr Matthews soulignent que le message principal du livre, il peut se résumer en deux mots très simples. Commencement, au pluriel, et bénédiction.
Ouais, on comprend bien l'idée de commencement pour un livre qui ouvre sur la création du cosmos, mais une implication théologique massive derrière ce petit mot temporel. Ce qui est fascinant, c'est la logique inhérente à ce mot.
Comment ça ?
Par définition... Un commencement, ça n'existe pas en vase clos. Si un auteur insiste sur le fait qu'il raconte un commencement, ça présuppose forcément qu'il y a une fin, un aboutissement, une destination.
Ah, je vois. Donc le livre, il se contente pas de regarder dans le rétroviseur.
Non, c'est pas juste de l'histoire ancienne. C'est profondément orienté vers l'avenir. C'est ce que les théologiens appellent une dimension eschatologique.
Eschatologique, d'accord. C'est un grand mot pour dire que le texte regarde vers la ligne d'arrivée, vers la résolution finale de l'histoire, en fait.
C'est exactement ça.
Je suis hyper fasciné par cette idée. C'est un peu comme la scène d'ouverture d'un grand film épique, tu sais. Si le réalisateur est bon, les 5 premières minutes, elles servent pas juste à montrer un joli décor de montagne.
Non, il y a déjà des indices.
Voilà, la toute première scène, elle contient déjà les failles et les graines de ce qui va exploser dans le grand final. L'origine contient la destination.
C'est une super analogie.
Mais alors du coup, si le but ultime du livre, c'est cette résolution finale des conflits entre Dieu et les humains, comment le texte trace-t-il concrètement le chemin pour y arriver ? Parce que j'imagine qu'on passe pas du chaos à la paix d'un simple claquement de doigts.
Ben non, le chemin, il n'est pas du tout abstrait. Le texte déploie ce que le Dr Matthews identifie comme 3 programmes distincts de bénédiction.
3 programmes.
Ouais. Face à la rébellion et à l'échec humain, l'auteur structure son récit autour d'un plan d'action très précis qui s'ajuste au fur et à mesure.
D'accord. Donc, si on suit la logique narrative, le premier programme doit forcément se trouver dans le cadre idéal, avant que tout ne déraille.
Exactement. C'est en Genèse chapitre 1, verset 28. C'est ce qu'on appelle une ordonnance de création.
Où Dieu s'adresse directement à l'humanité toute neuve et lui donne 3 directives, c'est ça, hein ?
C'est ça. Il y a d'abord l'ordre de procréer, de se multiplier, ensuite l'ordre de gérer la terre et les animaux, comme des intendants, et puis troisièmement, la relation.
La relation directe. Le simple fait de Dieu leur parle, puisqu'ils sont créés à son image, ça établit une connexion personnelle. Ça, c'est le plan A, en fait. La bénédiction parfaite.
Voilà, le plan A. Le problème, comme dans toute bonne histoire d'ailleurs, c'est l'incident déclencheur. Ce premier plan, il s'effondre avec la rupture du chapitre 3, la fameuse rébellion dans le jardin.
Tout est brisé.
La relation est brisée, oui. Pourtant, le texte montre que cette tragédie, elle n'annule pas la volonté de bénédiction. Ça déclenche simplement le deuxième programme.
Qu'on prouve en Genèse 3.15 d'après les notes.
Absolument. Et c'est un passage super surprenant parce qu'il se situe en plein milieu d'un oracle de jugement très sombre prononcé contre le serpent.
C'est le fameux plan de sauvetage. Le texte promet l'arrivée d'un libérateur, non ?
Ouais. Il est dit que la postérité de la femme, son descendant, écrasera la tête du serpent, tandis que le serpent lui frappera le talon.
C'est une image tellement viscérale, hyper violente. Une blessure au talon pour le libérateur, donc douloureuse mais pas mortelle, en échange d'un coup fatal porté à la tête du mal.
C'est très visuel. Et le cours précise que, pour les lecteurs de tradition chrétienne, ce verset précis, c'est vraiment le fondement prophétique par excellence.
C'est lu comme l'annonce directe de Jésus-Christ triomphant de Satan à la croix, en fait.
Tout à fait. C'est la lentille théologique majeure du christianisme. Mais si on reste sur le plan strictement narratif de la Genèse, pour que ce descendant, ce futur libérateur, arrive d'une manière ou d'une autre...
Il faut un vecteur humain, une lignée.
Voilà, une généalogie. Et c'est ce qui nous propulse vers le troisième programme, beaucoup plus tard dans le texte, en Genèse 12.
Et là, on arrive à l'appel d'un homme spécifique, Abraham. Et le changement de rythme littéraire, il est spectaculaire à ce moment-là. En seulement 3 versets... Le mot « bénédiction » est martelé 5 fois.
5 fois, ouais. L'auteur clignote en rouge fluo pour dire « Regardez ici, c'est important ».
C'est clair. Et d'ailleurs, les promesses faites à Abraham, elles font étrangement écho au premier programme du Jardin d'Éden. On lui promet une terre, ce qui rappelle le mandat de dominer la terre au chapitre 1. On lui promet une grande nation, ce qui fait écho à l'ordre de procréer.
Et la promesse ultime, c'est que toutes les nations de la terre seront bénies à travers lui et son descendant idéal.
La boucle est bouclée, en fait.
La bénédiction perdue au niveau universel va être restaurée, mais en passant par le canal d'une seule lignée.
Mais attends, c'est là que j'ai besoin qu'on s'arrête une seconde. Ce changement d'échelle, il me semble vertigineux. Dans les premiers chapitres, on parle d'enjeux cosmiques, la création des étoiles, des océans, la chute de l'humanité entière, un déluge qui noie la planète.
Ouais, c'est du très grand format.
Et soudainement, au chapitre 12, la caméra se resserre sur un seul individu, avec sa tente, sa femme et ses troupeaux, perdus quelque part au Moyen-Orient. Mais comment on passe d'un désastre cosmique à une solution hyper concentrée sur un seul nomade feu ? Comment l'auteur gère cette transition brutale sur le plan littéraire ?
Eh bien, si l'on relie ça à la vue d'ensemble du livre, cette transition, elle n'est pas brutale du tout. Elle est le cœur même de l'architecture géométrique de la Genèse.
Géométrique, c'est-à-dire ?
Le livre, il est littéralement coupé en deux pour soutenir cette logique. Le passage de l'universel au particulier. C'est une symétrie quasi parfaite par le contenu.
D'accord, l'auteur a construit une symétrie délibérée, les chapitres 1 à 11 d'un côté et 12 à 50 de l'autre.
C'est ça, les chapitres 1 à 11 traitent de la famille universelle, c'est la focale large. Et elle est articulée autour de 4 grands récits de crise. La création, l'expulsion du jardin, le déluge avec Noé et la tour de Babel.
Qui explique la dispersion chaotique des nations. Ça, c'est l'effondrement global.
Exactement. Et ensuite, la deuxième partie du livre, les chapitres 12 à 50, opère un resserrement total sur les histoires patriarchales. Et là, devine quoi ? On y retrouve exactement 4 figures centrales pour équilibrer la balance.
Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. 4 événements mondiaux d'un côté, 4 individus de l'autre. C'est brillant comme structure.
C'est très très structuré.
Mais en regardant de près ces 4 patriarches, il y en a un qui semble presque transparent au milieu des autres. Isaac. On a des dizaines de chapitres sur Abraham, des rebondissements incroyables sur Jacob et Joseph, mais Isaac, il donne l'impression d'être juste là pour faire le pont entre son père et son fils.
Le docteur Matthews confirme tout à fait cette observation. Dans la mécanique narrative, Isaac sert de récit de transition. Il est écrasé par la stature monumentale de son père, Abraham.
C'est difficile de passer après lui, c'est sûr.
Ouais, Et son rôle littéraire principal, c'est juste de transmettre l'alliance en devenant le père de Jacob. Jacob, lui, est crucial puisque ses 12 fils vont former les 12 tribus de la future nation d'Israël.
Et Joseph, alors ?
Quant à Joseph, il occupe une place colossale à la fin du livre. C'est lui qui devient le sauveur physique de toute cette famille, en les protégeant de la famine et en les installant en Égypte.
D'accord, donc la structure par le contenu, elle est super claire. Mais si l'auteur veut nous faire passer de la création de la Voie lactée à la généalogie d'une tribu en Égypte, il lui faut un outil narratif, une sorte de transition de scène. Et cet outil, d'après les notes, c'est un mot hébreu très spécifique qui revient comme un refrain.
Le fameux mot « toledot ». C'est vraiment le squelette invisible de la Genèse. On le traduit généralement par « voici les générations d'eux » ou « voici les origines d'eux ».
Toledot, c'est une formule littéraire.
Oui, qui apparaît exactement 11 fois dans le livre. Ça agit comme des charnières. Le terme vient d'un verbe lié au fait d'engendrer, de procréer.
Bon, avouons-le. Quand un lecteur d'aujourd'hui tombe sur le mot « génération » dans un texte antique, il s'imagine tout de suite une longue liste super aride du type « un tel engendra un tel qui engendra un tel » et on a très envie de sauter la page.
C'est l'erreur classique, hein. Les Toledo, c'est bien plus que des arbres généalogiques indigestes. C'est une balise qui annonce « voici ce qui est advenu d'eux ».
Ah, ça introduit une narration, en fait.
Exactement. Ça introduit de vastes récits familiaux et historiques. La preuve, c'est que la toute première utilisation du mot en Genèse 2.4, elle ne parle d'aucun être humain.
Vraiment ?
Le texte dit « voici les générations des cieux et de la terre ». C'est une manière d'introduire l'histoire et le devenir de la création elle-même.
Ah, mais c'est l'analogie parfaite de Google Earth, en fait. Les 11 premiers chapitres, c'est la vue du globe terrestre depuis l'espace. Et à chaque fois que l'auteur utilise le mot « toledot », c'est comme s'il tournait la molette de la souris pour zoomer. Il passe du système solaire à un continent, à la Mésopotamie, jusqu'à voir le toit de la tente de la famille d'Abraham.
Le mouvement est frénétique, mais totalement maîtrisé, oui.
Ce qui nous amène à la vraie question de cette exploration. Pourquoi ? Pourquoi le public d'origine, les tout premiers auditeurs de ce texte, ils avaient besoin d'une carte généalogique et cosmique aussi ultra détaillée ?
Eh bien, pour répondre à ce « pourquoi », il faut s'imaginer qui tenait cette carte en premier et dans quelles conditions. La Genèse, ça n'a jamais été pensé comme un livre autonome qu'on achète seul en librairie.
Non, ça fait partie d'un tout.
Ça constitue le premier volet du Pentateuque, ce grand ensemble de 5 livres que la tradition hébraïque appelle la Torah.
La Torah, ouais. Un mot qu'on traduit presque systématiquement, et peut-être à tort d'ailleurs, par « la loi ».
C'est une simplification qui fausse un peu notre lecture. Le mot « Torah » dérive du verbe hébreu « yara », qui signifie « enseigner » ou « instruire ». La Torah dans son ensemble, c'est pas un code pénal froid.
C'est une instruction.
Voilà, un guide pour marcher sur le chemin du Seigneur. Si tu cherches des articles de loi pénale dans la Genèse, tu vas être déçu. Il n'y en a quasiment pas.
C'est vrai. On y trouve des drames familiaux, des trahisons entre frères, des alliances politiques, des famines, mais pas de grands commandements juridiques.
Non, mais ces histoires, elles servent de jurisprudence morale, en quelque sorte. Elles illustrent comment vivre ce mode de vie. Par exemple, en Genèse 18-19, Dieu dit clairement avoir choisi Abraham pour que ce dernier ordonne à ses enfants de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice.
L'histoire sert de manuel d'instruction, du coup. Et ça nous connecte directement à l'audience d'origine. On parle d'un groupe très spécifique de personnes à l'époque.
L'audience primaire, celle qui reçoit cette instruction, c'est la génération d'Israélites qui se trouve dans le désert avec Moïse, autour de 1450 avant notre ère.
Imagine un peu leur quotidien. Ils viennent d'échapper à l'esclavage en Égypte, ils errent dans la poussière, ils sont terrifiés par l'avenir et ils ont désespérément besoin d'une identité.
C'est ça. Le livre de la Genèse, il est rédigé pour être le préquel de leur propre expérience présente, qui s'étire du livre de l'Exode à celui des Nombres.
Et c'est là que ça devient vraiment super intéressant. J'adore l'analogie que le docteur Matthews utilise pour décrire cette expérience de lecture. Il parle du film « Retour vers le futur ».
Ouais, ou même l'expérience de regarder l'épisode 1 de Star Wars après avoir vu la trilogie originale.
C'est exactement ça. Pense à ces Israélites dans le désert. Leur présence, c'est la sortie d'Égypte, les miracles effrayants, la mer qui s'ouvre. Et surtout, ils viennent de recevoir les 10 commandements dans le tonnerre au mont Sinaï. Ils ont vécu le point culminant de l'histoire.
Et là, on leur tend le livre de la Genèse.
Qui se passe des millénaires plus tôt.
Ils découvrent les origines après avoir vécu le grand final. Et la connexion littéraire que l'auteur établit pour cette audience, elle est magistrale. Regarde comment le tout premier chapitre de la Genèse est construit. Le récit de la création utilise exactement 10 fois la formule « Dieu dit ». pour faire apparaître le monde.
10 paroles créatrices, cosmiques.
10 paroles pour faire directement écho aux 10 commandements qui viennent tout juste de recevoir au Sinaï.
Ah, le clin d'œil est énorme.
L'objectif, il est politique et théologique. Le message pour ces ex-esclaves épuisés, il est limpide. Le Dieu qui vient de vous dicter des lois au pied d'une montagne, c'est pas juste un petit esprit tribal local ou une divinité mineure que vous avez ramassée en chemin.
C'est le concepteur de l'univers tout entier.
Son autorité légale sur eux au mont Sinaï, elle est fondée sur son autorité absolue en tant que créateur des étoiles. Ça donne une légitimité écrasante à leur existence et à leur marche vers la terre promise.
C'est une stratégie brillante pour unifier un peuple. Mais bon, ça soulève quand même une question logistique de taille. Si on admet que cette audience première lit ça dans le désert avec Moïse, disons en 1450 avant notre ère, les événements racontés dans la Genèse, comme l'histoire d'Abraham, ça s'est déroulé des centaines, voire des milliers d'années avant la naissance de Moïse. Comment il a pu documenter ça avec autant de précision ?
Posons d'abord les bases chronologiques. L'ère des patriarches, donc Abraham, Isaac, Jacob, ça se situe durant l'âge du bronze moyen. Environ entre 2200 et 1550 avant notre ère.
Le monde ne ressemblait pas du tout à celui de Moïse alors?
Pas du tout. À l'époque d'Abraham, il n'y a pas de grands empires dominants, comme l'Égypte des pharaons bâtisseurs, mais plutôt une multitude de petites cités-états et de roitelets locaux en Mésopotamie et en Canaan.
Et le texte de la Genèse, est-ce qu'il reflète cette culture très spécifique du bronze moyen ou est-ce qu'il plaque des concepts récents sur le passé?
Le texte est profondément ancré dans cette réalité antique. L'archéologie du Proche-Orient a prouvé son authenticité sur des détails hyper pointus.
Par exemple?
Prends Genèse 15. Abraham, désespéré de ne pas avoir d'enfant, il dit à Dieu que son héritier légal sera Éliézer de Damas, l'un de ses serviteurs.
C'est vrai que pour un lecteur moderne, adopter son domestique, ça semble complètement absurde.
Mais les archives archéologiques découvertes dans la région, qui datent de cette époque exacte, elles montrent que c'était une pratique juridique tout à fait courante pour un couple stérile, d'adopter un serviteur pour assurer la pérennité du domaine, à condition que le serviteur prenne soin d'eux dans leurs vieux jours.
C'est la preuve que le texte conserve la mémoire exacte d'une époque révolue, en fait.
Absolument.
D'accord, le vernis historique est authentique, mais techniquement parlant, le livre de la Genèse, il ne contient aucune signature. Nulle part il est écrit « Moi, Moïse, je rédige ce livre ». Pourtant, des siècles de tradition le désignent comme l'auteur. Sur quoi on se base, à part la tradition ?
On se base sur le fait que Moïse est identifié comme l'auteur de pans entiers du reste du Pentateuch. Dans l'Exode ou le Deutéronome, le texte mentionne explicitement que Moïse consigne par écrit les itinéraires du voyage, le livre de l'Alliance et même un grand chant final. Il était alphabétisé, formé à la cour d'Égypte.
Et pour ce qui est du vide temporel entre lui et les patriarches ?
Il faut s'enlever de la tête l'idée que ces peuples ne transmettaient leur histoire qu'oralement autour d'un feu de camp. L'écriture, elle était très présente dans les cours royales et les familles influentes de l'Antiquité.
Donc Moïse ne l'aurait pas tout inventé ou reçu par, une révélation mystique totale. Il aurait fait un travail de compilation.
Les notes du docteur Matthews penchent fortement vers l'idée que Moïse a eu accès à des archives écrites anciennes, conservées par les Israélites. Le texte de la Genèse laisse d'ailleurs traîner un indice énorme en ce sens.
Lequel ?
En Genèse 5.1, on lit « Voici le livre des générations d'Adam ». Le mot « livre » ou « registre », il est là, noir sur blanc. Moïse, agissant comme auteur et éditeur guidé par Dieu, il a probablement fusionné ses mémoires familiales patriarcales pour composer ce prologue pour son peuple.
Alors là, je vais me faire l'avocate du diable une seconde. Parce que les notes du cours mentionnent aussi un point qui peut gêner. Il y a eu des mises à jour éditoriales apportées au texte bien après la mort de Moïse.
C'est vrai.
Par exemple, Deutéronome raconte en détail la mort et l'enterrement de Moïse, ce qu'il a manifestement pas pu écrire lui-même. Pire encore, dans Genèse 36-31, on trouve une liste des rois de la région d'Édom, et le texte précise « Voici les rois qui ont régné sur Édom avant qu'un roi ne règne sur les Israélites ». Attends, cette petite phrase, elle implique que le scribe qui écrit ça, il vit à une époque où Israël a déjà des rois. Donc, à l'époque du roi David ou de Salomon, des siècles plus tard. Un historien moderne y hurlerait à la falsification. Est-ce que ces retouches tardives, elles ne détruisent pas l'intégrité du document original ?
C'est une réaction très occidentale et très moderne, ça. Aujourd'hui, on met le manuscrit original sous cloche, on sacralise le papier et on estime que changer une virgule, c'est une hérésie.
C'est clair.
Mais dans la culture textuelle du Proche-Orient ancien, le rapport au texte sacré était complètement différent. La préservation, elle passait par l'actualisation.
Actualiser le texte pour le garder en vie, en somme.
Exactement. L'objectif suprême du Pex Nathoc, c'est d'être la Torah, une instruction vivante. Si une instruction contient des noms de villes qui ont disparu depuis 3 siècles, ou des repères chronologiques que plus personne ne comprend...
Le livre devient une archive morte, bonne pour un musée.
Voilà. Le travail des prophètes ou des scribes ultérieurs, c'était pas de trafiquer la théologie ou l'histoire, c'était d'ajouter de discrètes mises à jour, comme remplacer l'ancien nom d'une ville par son nom moderne, ou ajouter ce repère sur les rois d'Édom, pour que le lecteur de l'époque de David comprenne parfaitement le contexte.
Donc cette flexibilité éditoriale, c'était pas perçu comme une falsification, mais plutôt comme une preuve éclatante du respect qu'ils avaient pour ce texte.
Absolument. Ils voulaient qu'il reste pertinent pour chaque nouvelle génération.
Cette perspective, elle change vraiment la façon dont on lit ces pages. Ça montre à quel point ce document respire avec l'histoire, en fait.
C'est un texte vivant.
Bon, pour rassembler toutes les pièces du puzzle qu'on a posé aujourd'hui, la Genèse, c'est définitivement pas un catalogue d'origine un peu poussiéreux, c'est un prologue minutieusement architecturé. À travers le mécanisme de zoom des Toledo, l'auteur fait le pont entre le cosmos, l'univers entier, et une seule tente de nomades.
Le texte a été pensé, compilé et maintenu à jour pour prouver à un peuple errant, fatigué, terrorisé dans le désert, que sa petite existence fragile, c'était pas une erreur de parcours.
Leur survie s'inscrivait dans un gigantesque projet de restauration, un projet conçu dès le commencement pour amener une bénédiction universelle face à la fracture humaine globale.
La vraie grandeur du livre, c'est d'avoir réussi à lier l'angoisse intime d'une famille à la destinée de l'univers tout entier. Et cette volonté de structurer le chaos, de trouver une ligne directrice qui connecte le point A de nos origines au point Z de notre destination, c'est un réflexe intellectuel et spirituel fondamental.
Et surtout aujourd'hui, face à la surcharge d'informations, à l'incertitude du futur, au chaos permanent de notre époque, quiconque s'arrête 2 minutes pour réfléchir cherche sa propre carte architecturale. Et d'ailleurs, ça m'amène à une dernière pensée, pour prolonger tout ce qu'on a découvert avec les notes du Dr Matthews.
Vas-y.
Le texte de la Genèse utilise l'histoire des origines pour pointer directement vers l'espoir d'un libérateur futur. La fin est dictée par le commencement. Ce qui nous pousse à nous poser une question très actuelle pour ceux qui nous écoutent. Si l'histoire que l'on se raconte sur l'origine du monde dicte systématiquement les solutions que l'on attend pour le sauver, quels sont les récits des origines que notre société moderne a adoptés aujourd'hui ?
C'est une excellente question.
Et surtout, quel type de libérateur, qu'il soit technologique, politique ou idéologique, ces nouveaux récits nous conditionnent-ils secrètement à rechercher pour réparer nos propres fractures ?
Ça donne matière à réfléchir, c'est sûr.
Gardons en tête l'architecture vertigineuse de ces textes anciens et continuons d'explorer les fondations de ce que nous croyons savoir. À la prochaine pour une nouvelle exploration en profondeur.